besoin d'un conseil jardin? Appelez-nous tout de suite 02 98 53 65 65.
Et oui, comme tous les week-ends avec Philippe Munier, on prend le temps de répondre à vos questions. Enfin, il prend le temps. Moi, je vais pas me poser comme expert. Bonjour Philippe.
Bonjour Gaël, bonjour à tous.
C'est vrai qu'avec ce beau temps, tout le monde se rue dans le jardin.
Et oui, puis en plus, comme on a pris du retard, il y a tout à faire. Donc, faut avoir quatre mains, six bras. Enfin, bon, vraiment, faut se multiplier de partout. Faut demander l'aide à tous les étages. Donc, oui, faut y aller, faut y courir. On peut presque tout faire, presque. Hein. Ouais. Les tomates dehors, on oublie encore un petit peu. Hein. Mm-hmm. On va leur laisser encore une petite
quinzaine
de jours.
Les saints de glace sont passés?
Non, ils ne sont pas passés, saints de glace.
Ah, alors c'est quand les saints de glace?
11-12-13.
Hein. 11-12-13.
Hein. Alors, et puis après, il y a le plus méchant de tous, Yvonnet, la Saint-Yves, 19 mai.
Donc, ah oui, il est fatal,
en Bretagne, on vaut mieux attendre après Yvonnet.
D'accord.
Ah ouais, quand même. Bon, après, il y a des années où ils s'en foutent, hein, mais il y a des années où ils s'en foutent pas.
D'accord.
Et là, il faut faire attention.
Donc par mesure de sécurité.
On fait attention, on s'énerve pas, et même quand on les met dehors, on leur met une petite protection pour la nuit, parce que
laine.
Les nuits sont fraîches. Et ben oui, alors on fait pas une petite laine, mais quatre petits bambous, un sac plastique bien calé entre les quatre bambous, et
ah
puis
oui.
Ça fait un petit abri qui va permettre de gagner 1 ou 2 degrés pendant la nuit, ça suffit, mais c'est déjà pas mal. Hein, donc voilà.
Parce que les 5 degrés en ce moment qu'on relève la nuit, c'est un peu frais, c'est ça?
Ah, c'est carrément frais. Vous savez, rappelez-vous que la tomate est une plante tropicale.
Oui.
Hein,
oui
donc,
oui.
À 12 degrés, les plantes tropicales, elles ont froid.
D'accord.
Alors à 5, imaginez.
Ah ouais, à 5, elles grelottent.
Hein. Voilà, c'est ça. Et du coup, elles n'ont pas envie de grandir, elles n'ont pas envie de faire des fruits, des fleurs, donc pas de fruits. Donc, elles vous font la tête.
Ah ouais, c'est ça.
Donc, on attend un petit peu qu'il fasse vraiment bien chaud pour les planter dehors ou pour on leur met une petite laine pour la nuit. Mm-hmm. Et puis, dès le mois de juin, je pense que tout ira bien et que là, on pourra s'éclater complètement, mettre les courges, les courgettes, les machins. Ah, par contre, si vous avez une serre, là vous pouvez un petit peu vous lâcher parce que c'est vrai que les haricots verts, les courges, les courgettes dans la serre, ça on peut y aller. Hein.
Ah, on peut commencer. Ouais.
Ah, bah oui, là il faut y aller, faut se faire plaisir même, hein, vu qu'on ne peut pas faire dehors, donc sur le dedans. Hein. Non, mais alors, donc non, il y a beaucoup de travail, mais il faut le faire avec toujours pareil, le sourire, le plaisir, la bonne humeur, et puis surtout en travaillant avec la nature et pas contre la nature.
Ah oui, non, il ne faut pas acheter de produits, là on arrête, je pense que tout le monde a compris, on a vu les abeilles, l'hécatombe de l'hiver, donc il faut que chacun dans son jardin aussi permette aux abeilles de venir paisiblement.
Bon. C'est ça.
Les premiers appels, déjà, au 02 98 53 65 65. Philippe, ça vous dit, on accueille Janine?
Avec plaisir.
Allô, bonjour.
Bonjour Janine, vous êtes à Plomeur.
Oui, c'est ça. Je vous remercie de prendre mon appel. Je vous appelle parce que nous avons un mimosa et toute la cime du mimosa est noire. Mais nous sommes à 500 mètres de la mer. Mais comme l'hiver a été rude, je pense que c'est ça. Mais il apparaît des petites feuilles qui repartent. Qu'est-ce que je dois faire?
Alors, comme j'aime à le répéter souvent, il est urgent de ne rien faire.
Ah bon, d'accord.
Oui, toi, voilà, c'est bien, c'est reposant. Hein. Alors, en fait, vous continuez à observer vos petites pousses qui redémarrent. Hein, et lorsque vous attendez encore 15 jours, 3 semaines, même un petit mois, hein, c'est pas un problème. Hein, fin mai, début juin. Et puis là, effectivement, bah, toutes les pousses qui sont en bonne santé, elles se seront bien développées. Et puis celles qui sont moins en bonne santé, bah, elles seront pas terribles. Et à ce moment-là, vous pourrez prendre un bon sécateur, bien affûté, bien désinfecté, et aller enlever tout ce qui est mort et tout ce qui est moche.
Ah
voilà.
Oui, d'accord.
Hein, délicatement, évidemment, tout en douceur, tout en rondeur. Hein, on va pas massacrer le pauvre mimosa qui a déjà souffert pendant l'hiver. On va juste lui enlever son bois mort ou les bourgeons qui seraient vraiment pas jolis. S'il y en a un qui fait 15 cm et qu'à côté, il y en a un qui fait 2 cm, bah, celui qui fait 2 cm, il s'en va.
Hein, voilà.
Et puis comme ça, bah, il va redémarrer, va se remplumer. C'est pas gagné pour les fleurs l'année prochaine, mais dans deux ans, c'est sûr. Sauf s'il fait très froid l'hiver prochain.
Par contre, la semaine dernière, vous avez donné une composition pour les pucerons, 5 litres d'eau, et j'ai pas noté la quantité de savon noir.
Alors, c'était... Bon, il y a plusieurs choses. Hein. Le premier niveau, le plus simple, hein, c'est une cuillerée à soupe de savon noir par litre. D'accord ? Ça, c'est le premier niveau,
d'accord.
Le plus simple. Si vraiment les pucerons résistent à ça, vous passez à 2 ou 3 cuillerées par litre.
Ah voilà, bon, d'accord. Hein. Je crois que j'y ai reparlé tout à l'heure.
Voilà. Mais faites attention, les pucerons, c'est aussi la nourriture pour tout un tas d'animaux. Donc, quand on a un puceron dans le jardin, on ne saute pas dessus en disant « je vais te tuer ». On attend d'abord de voir si les animaux qui en ont besoin, comme les coccinelles, comme les chrysopes, comme beaucoup d'oiseaux, on attend d'abord de voir si eux vont venir manger. S'ils ne viennent pas, là, on fait quelque chose. Mais s'ils viennent, on laisse tranquille les pucerons qui vont servir de nourriture à tous les animaux du jardin dont on a besoin dans le jardin, comme, je rappelle, les coccinelles. Et les chrysopes.
Ah oui, la biodiversité. D'accord. Merci Janine, bonne journée à Plomeur.
Merci, bon courage pour votre émission. Merci.
Alors Janine avait raté la recette que vous aviez donnée la semaine dernière. Philippe, je rappelle du coup à nos auditeurs que vous pouvez retrouver l'émission sur internet, comme ça vous prenez le temps de noter les petites choses que Philippe donne durant l'émission, mais à votre rythme. Et puis si vous n'y arrivez pas vous avec internet, eh ben vous savez quoi, il y a toujours un petit-fils, une petite fille qui sera très heureux de vous aider aussi. Et puis c'est l'occasion d'échanger entre générations.
Exactement.
Janine était à Plomeur. Daniel, elle, est à Saint-Conan, dans le nord de la région sud-ouest de Saint-Brieuc. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous ?
Là, je vous appelle pour savoir à quel moment il faut couper les feuilles des jonquilles, parce que là, les fleurs sont fanées, sont passées.
Mmh. Alors, les feuilles des jonquilles, on ne les coupe que lorsqu'elles sont complètement fanées, mais complètement, c'est-à-dire qu'elles sont toutes sèches.
Hein. Ouais,
alors ça va être long, des fois c'est un peu long, c'est souvent vers le 15 juin. Donc il ne faut surtout pas les couper avant, mettez des plantes devant pour ne pas les voir, parce que ce n'est pas très joli.
Ouais.
Hein. Mais gardez-les, parce que si vous ne les gardez pas, vous allez empêcher le bulbe de se refaire, et du coup vous n'aurez pas de fleurs l'année prochaine, ce qui serait quand même dommage. Donc vous les gardez.
Et là on peut couper la tige de la fleur quand
alors,
même.
Alors la tige de la fleur, non, mais juste la tête de la fleur, oui.
La tête de la fleur.
Voilà. Ça sera un peu moins moche.
Oui.
Voilà. Et puis vous gardez bien tout. Et puis même si vous avez encore un petit peu de cendre de bois de la cheminée, mais un petit peu, une petite poignée ou deux, vous pouvez en mettre encore un petit peu maintenant.
D'accord.
Au pied des jonquilles.
Ouais, d'accord.
Et des tulipes.
Merci. Moi, je vous donne une bonne journée alors.
Merci. Daniel.
Bah, vous aussi, profitez du soleil.
Oui, comme tout le monde, ça c'est sûr. Allez, on revient dans un petit instant. Il y a du soleil dehors et Louise Attac nous emmène au vent. Vous êtes sur France Bleu Brésil au 02 98 53 65 65. Vous le savez, vous pouvez poser vos questions à Philippe Meunier.
Philippe Meunier répond à toutes vos questions. 02 98 53 65 65.
Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel artificiel. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel.
Louise Attaque et son carton de 1997, 2,8 millions d'exemplaires vendus de cet album.
Une question jardin, notre expert y répond tout de suite.
Et notre expert, c'est bien entendu Philippe Munier. Vous nous rejoignez au standard au 02 98 53 65 65. Philippe, je vous propose d'accueillir Gilles qui nous appelle de Morlaix. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour.
Alors, des pivoines?
Oui, des pivoines. Je viens d'en planter et je voudrais avoir des conseils sur cette fleur.
Alors, vous les avez achetées en pot, je suppose. Elles étaient déjà démarrées, peut-être même
oui,
presque en fleur.
Oui.
Hein? Alors, première chose, au moment de les planter, j'espère que vous avez fait très attention au fait que le niveau du pot de la motte hein, de la pivoine oui. soit légèrement au-dessus du niveau du sol. C'est très important. Il faut être deux bons centimètres au-dessus du niveau du sol, de manière à ce que, de toute façon, quand vous aviez travaillé la terre, l'ensemble va redescendre, et il faut que, au bout du compte, il y ait au moins 5 mm la pivoine soit toujours 5 mm au-dessus du niveau du sol. Si ce n'est pas le cas, elle ne refleurira jamais. Elle fera des belles feuilles, ça, il n'y aura aucun problème, mais il n'y aura plus jamais de fleurs. C'est vraiment une plante qui est une plante facile, est une plante qui est productive, qui est magnifique, etc. Mais si on la plante trop profond, elle ne fleurit pas. Donc ça, c'est vraiment très important. Si vous avez encore le temps de la soulever légèrement et d'aller caler un tout petit peu de compost ou un petit peu de terreau en dessous, faites-le, hein, parce que c'est vraiment important que ça soit planté au-dessus du sol. Hein, et on peut, j'ai même lu dans un vieux livre datant du milieu du 19e siècle que la personne conseillait de poser la motte sur le sol, de rajouter un petit peu de terre rapidement et de feuilles mortes autour et de la laisser vivre sa vie comme ça, parce que c'est comme ça qu'elles s'ancrent dans le sol et c'est comme ça qu'elles sont toujours bien drainées et qu'elles font toujours des jolies fleurs. Donc voilà, il faut faire très très attention à ça. Sinon, à part ça, il faut savoir qu'elle se met en repos pendant l'été, que les bourgeons de l'année prochaine se préparent pendant l'été, qu'ils apparaissent dès le mois de septembre. Donc à ce moment-là, dès le mois de septembre, vous pouvez faire un petit apport très léger en potasse, et je dis bien très léger, hein. Alors soit sous la forme d'une toute petite poignée de cendre de bois par motte, soit sous la forme de petits granulés de potasse qu'on trouve, qui sont à base de distillerie ou de brasserie ou de sucrerie, donc des produits d'origine végétale.
Voilà Gilles.
Ok, ça marche.
Allez.
Je voudrais savoir si c'est qu'un plant et ça se propage ou.
Alors les pivoines se développent très lentement, donc une touffe de pivoine achetée maintenant va faire une jolie touffe dans 50 ans, une très belle touffe même, mais c'est un développement très lent. Mais on peut très bien dédoubler à peu près tous les 5 ans, donc récupérer des petits rejets sur le côté et les replanter ailleurs pour pouvoir tout doucement. Mais c'est pas une plante expansive, quoi. C'est tout en douceur, tout en. Elle prend son temps.
Elle va prendre son temps, elles vont prendre son temps, vos pivoines, Gilles, à Morlaix. On va à Quimper. Brigitte, elle aimerait un conseil pour le gazon. Bonjour Brigitte.
Bonjour. Oui, je voulais savoir quel gazon choisir pour avoir une pelouse facile d'entretien.
Alors, celui que je conseille, moi, personnellement, c'est le plus cher. Hein, je veux quand même être cash, c'est celui qui coûte le plus cher. C'est un mélange qui est fait à 100% d'une graminée qui s'appelle la fétuque rouge, et sous trois cultivars différents, un tiers donc de fétuque rouge gazonnante, un tiers de fétuque rouge semi-gazonnante, et un tiers de fétuque rouge traçante. On trouve ce mélange dans certaines jardineries, il faut prendre des jardineries d'une certaine importance, parce que les petites jardineries n'ont pas forcément
tout. Non, j'ai regardé, hein, oui.
Voilà. Et si par hasard ils ne l'ont pas, vous pouvez toujours demander à ce qu'ils soient commandés. Donc c'est un investissement, il faut reconnaître, par rapport à un gazon lambda, il doit coûter 2 ou 3 fois plus cher. Mais par contre, derrière, c'est un gazon très fin, c'est un gazon qui pousse lentement, c'est un gazon qui supporte la sécheresse, donc on n'a pas besoin de l'arroser. Comme il pousse lentement, on le tombe moins souvent. Il supporte pas trop mal le piétinement. Faut pas non plus, c'est pas un gazon fait pour faire des terrains de foot. Hein, voilà, c'est un gazon, c'est vraiment un gazon d'ornement. Mais on peut marcher dessus, on peut faire une soirée barbecue, une après-midi barbecue dessus. En ce moment, faut y aller toute l'après-midi hein, pour profiter. Donc voilà. Donc au niveau résistance au piétinement, c'est pas la grande spécialité. Mais par contre, c'est le gros avantage, c'est il résiste à la sécheresse, il résiste au vent marin si vous êtes en bord de mer. Il pousse lentement, il est tout fin, tout joli, donc c'est plutôt des trucs pas mal.
Oui, vous voilà. Pourriez répéter donc.
Alors, fétuc rouge.
Oui, et après vous m'avez dit.
Un tiers, donc un tiers de gazonnante, un tiers de demi-gazonnante, un tiers de traçante. Mais de toute façon, quand le mélange existe, en général, il est fait comme ça, il est systématiquement fait un tiers, un tiers, un tiers.
Ah, le mélange est déjà dans la boîte.
Voilà.
Ah d'accord.
Voilà.
Très bien. Quand on demande fétuc rouge, déjà.
Voilà, en général, de toute façon, les compositions des gazons sont toujours marquées sur la boîte, c'est obligatoire. Donc vous regardez sur la boîte la composition.
Oui, dans les jardineries, j'ai regardé, il n'y a pas.
Ah si, vous, les fétuc rouges ou la composition? Il y a toujours la composition, c'est obligatoire.
Ah non, il n'y a pas de fétuc rouge, j'ai vu simplement rustique, ouais. Spécial mushing.
Alors ne prenez pas de rustique, parce que le rustique, il est très costaud, mais il pousse vite. Et puis souvent dans le rustique, il y a du régras anglais, ça y est. Et le régras anglais, c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau et qui pousse assez rapidement, donc on tombe plus souvent. Donc non seulement il faut l'arroser, mais en plus il faut la tondre après. Alors l'avantage de la fétuc, c'est qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau et qu'elle pousse lentement.
Ah bah voilà, c'est ce qu'on veut, ça c'est évidemment un gazon dont on n'a pas besoin de s'occuper tous les week-ends à coup de tondeuse. Hein. Voilà Brigitte, bonne journée et bon choix de gazon, enfin vous savez quel choix faire en tout cas maintenant. Philippe, c'est quoi une Dracaena fragans?
Alors Dracaena, c'est un genre de plantes originaires de l'hémisphère sud. Hein, donc on en trouve en Australie, en Nouvelle-Zélande, et on doit même en trouver aussi en Afrique du Sud.
Pays chaud, donc c'est pour ça que nous on les fait pousser en intérieur.
C'est ça.
Je vous dis ça
on
parce que
on les appelle aussi les dragonniers.
Ah, joli,
joli comme nom. Ouais, hein, joli. Moi j'aime bien.
Je vous dis ça parce que Jacques est à Trébeurden. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Alors, et votre Dracaena fragans, que lui arrive-t-il?
Eh oui, on en trouve aussi en Bretagne, puisque j'en ai un chez moi. On en trouve aussi en jardinerie assez souvent. C'est un Dracaena qui a une vingtaine d'années maintenant chez moi, qui avait 7-8 branches qui poussaient vers le haut, et puis maintenant il atteint le plafond. Je dois savoir si je peux le couper, parce que je vois en jardinerie, souvent il est coupé, il y a des rejets. Comment faut faire pour qu'il puisse rejeter sur les côtés si on coupe des grosses branches, si j'ai des chances que ça pousse, et puis éventuellement si je peux essayer de remettre les pousses en terre pour que ça rebouture.
Bah, en fait, vous avez tout dit déjà. Ça y est, tout ce que vous avez supputé, c'est bon, ça marche. On peut le couper sans aucun problème. Et puis, alors, faut faire bien attention parce que lorsque vous allez couper, avant de couper, faut bien vérifier que sur la tige, il y ait un œil. Alors, souvent, ils sont pas évidents à voir, mais on voit quand même un renflement.
Oui.
Oh, il y en a forcément un renflement. Faut regarder sur toute la hauteur et faut couper juste au-dessus pour que ce petit renflement, dans lequel il y a déjà le futur bourgeon, se développe et remplace ce que vous avez coupé. Ce que vous avez coupé, vous le bouturez dans un mélange un tiers de moitié sable, moitié terreau. Hein, il faut que ce soit très 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 drainant. Il faut surtout pas que ça pourrisse. Et on peut même faire. Alors ça, je l'ai vu faire. C'était assez rigolo en Afrique du Sud, justement. Vous prélevez un bouquet terminal et vous le greffez sur le côté. C'est une greffe en application. Donc en fait, ce qui fait que il y avait entre autres un Dracaena qui était composé, si je puis dire, de trois Dracaena différents. Parce qu'ils s'amusaient à greffer sur le tronc, greffer des trucs différents. Alors voilà,
Ça serait le même, d'accord, oui.
C'est artistique.
Par contre, j'ai beau le regarder sous tous les angles, là, pour l'instant, je vois vraiment pas d'œil.
Alors, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est pas très gentil de ma part de vous donner cette idée-là, mais délicatement avec un cutter parfaitement, enfin donc une lame neuve que vous avez d'abord nettoyée à l'alcool à brûler, parce qu'il y a donc une graisse sur les lames qui empêche la cicatrisation. Vous passez le doigt sur le tronc du dracéna. De toute façon, il est pas lisse, on est d'accord. Hein, il y a quand même des aspérités. Voilà. Oui. À un moment donné, sous les écailles, vous allez sentir quelque chose de légèrement plus rond, ça c'est forcément évident. Et juste au-dessus, délicatement, vous faites une toute petite encoche hein, de 2 mm de profondeur avec le cutter. Ouais. Et ça va bloquer la sève dans le bourgeon et ça va l'aider à démarrer.
Ah, d'accord. Ok.
Et ben voilà la petite subtilité. Et bonne chance avec votre Dracena Fragant. C'est bien, on apprend des nouveaux mots en plus. Ça fait
c'est bien, hein, ouais, Fragant, ça veut dire qu'ils sont bons.
Ah oui, oui, ah voilà. Oui. Bonne journée après, à Trébordin, Jacques.
Merci sous le soleil, c'est super. Voilà. Ouais, c'est super. Merci, au revoir.
Tout le monde a le sourire avec ce temps-là. Vos questions au jardin, c'est jusqu'à 9h50 ce matin avec Philippe Munier.
Besoin d'un conseil jardin? Appelez-nous tout de suite, 02 98 53 65 65.
France Bleu Breizh-Izel, partenaire du Grand Prix Guyader du 5 au 13 mai à Douarnenez. Un événement nautique unique qui voit s'affronter dans la baie des bateaux de course, les mythiques dragons, les Diams 24, les bateaux du Tour de France à la voile, des kitesurf et autres engins de vitesse. Un superbe spectacle sur l'eau, mais aussi des animations à terre. Journée spéciale Grand Prix Guyader le lundi 7 mai sur France Bleu Breizh-Izel.
France Bleu Breizh-Izel, votre radio connectée. Pour écouter la radio, recevoir des notifications d'actualité, retrouver toutes les émissions, toutes les infos, tous les podcasts. Pour connaître les prévisions de Météo France pour aujourd'hui ou pour demain, téléchargez gratuitement l'appli France Bleu compatible avec les systèmes Apple et Android.
Tous les deux mois, France Bleu et le nouveau magazine Tempo Santé vous invitent à prendre votre santé en main. Des derniers progrès médicaux aux médecines naturelles, retrouvez Tempo Santé et profitez de conseils d'experts pour préserver votre santé, votre forme et votre bien-être. Avec le nouveau magazine Tempo Santé, préserver votre santé et celle de vos proches, c'est essentiel. Un rendez-vous à suivre sur France Bleu.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Maman a rendez-vous chez le médecin cet après-midi.
Et
j'ai noté l'heure sur un papier.
Et tu l'as perdu.
Ben voilà, c'est ça.
Toi et tes petits bouts de papier, j'arrête pas d'en ramasser. La prochaine fois, note ces rendez-vous sur le site mylandmeilleursanté.fr. Leur calendrier en ligne est super pratique.
mylandmeilleursanté.fr, tu dis ?
C'est ça.
Ouais, je vais le noter sur un papier.
Avec mylandmeilleursanté.fr, profitez de nombreux services en ligne pour vous aider à suivre la santé de vos proches au quotidien.
Mylan. Une meilleure santé.
Pour un monde meilleur.
France Bleu Breizh-Izel.
France Bleu.
Dog, you too.
4 Centuries sur France Bleu, Brésil, Keep on Dancing.
Besoin d'un conseil jardin? Appelez-nous tout de suite 02 98 53 65 65.
Avec Philippe Munier, encore pendant un bon quart d'heure, on est au jardin. Je sais que vous avez tous envie d'aller sortir les outils hein, qui sont restés durant tout l'hiver dans le garage. Ça y est, il fait beau, tout le monde dehors. Philippe, c'est Marie qui nous appelle de Plouvorne. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors,
à vous deux et à monsieur le jardinier en chef.
Ah bah oui, Philippe avec sa toque de jardinier en chef.
Ah j'ai mis mes galons.
Hein. C'est très bien. Mais écoutez, je vous appelle parce que depuis longtemps, je me posais la question de savoir si donc des bulbes de tulipes qui se sont reproduits en terre peuvent être récupérés au début de la saison lorsque ça commence à verdir en bêchant, en arrosant bien le sol auparavant. De façon à les mettre en fait en jauge, peut-être pour qu'ils grossissent et que ça fasse des tulipes un jour.
Alors, il faut savoir que les bulbes de tulipes sur les tulipes hybrides, les hybrides de Darwin particulièrement, qui sont les plus vendus, les bulbes à la longue vont retourner à l'état sauvage, les bulbilles. Ah, donc d'accord. En fait, le bulbe principal, lui, si vous l'arrachez, alors le mieux c'est déjà de l'arracher fin de floraison, lorsque la fleur est fanée et que les feuilles commencent à faner. On arrache délicatement, d'accord, parce qu'il faut garder les feuilles, hein, comme j'expliquais tout à l'heure pour les jonquilles, il faut absolument que les feuilles fanent et que toute la sève soit récoltée par le bulbe pour préparer la fleur de l'année prochaine. Donc vous récupérez délicatement tout ça, et souvent, effectivement, vous allez trouver des bulbilles en dessous que vous pouvez récupérer, faire grossir, mais le résultat, ça sera très aléatoire. Hein. Années, c'est plutôt pas mal, et puis d'année en année, ça devient de moins en moins bien. Bon, par contre, si vous avez des tulipes, des tulipes botaniques, et on en trouve de plus en plus, particulièrement toute la gamme des préestances. Les bulbilles vont redonner la même tulipe pendant des années. Elles sont quasiment botaniques, donc elles sont quasiment sauvages. Et donc là, il y a pas de problème, ça sera des très très jolis résultats. Et donc, toujours pareil, on les récolte donc en fin de floraison, on arrache délicatement, on met en jauge dans un coin du jardin pour que ça finisse de bien faner, et lorsqu'elles sont bien fanées, on attend même tranquillement, on laisse le soleil de l'été passer dessus, et on les arrache début septembre, on les trie parce que les plus gros vont fleurir, les plus petits ne vont pas fleurir, donc tous les plus gros, on les met en terre à des endroits où on veut que ça soit joli, et puis les plus petits, là pareil, on les met dans un coin du potager pour qu'ils refassent une deuxième année, pour qu'ils se gonflent bien et qu'ils soient prêts à fleurir pour l'année prochaine. Voilà comment ça fonctionne.
Je suis très bien renseignée, je vous remercie.
Eh ben voilà une professionnelle du bulbe.
Quand on les met en jauge, il faut arroser un petit peu?
Alors au tout démarrage, oui, mais après non. Non, après il faut juste que ça se dessèche et vraiment arroser un peu pour bien coller la terre sur les bulbes, mais surtout pas trop, parce que comme ils sont en fin de végétation, ils risquent de pourrir si vous arrosez trop.
Ah oui, d'accord. Très bien. Et par ailleurs, je vous rejoins tout à fait parce que j'ai expérimenté le fait que j'avais un arbuste ornemental au jardin qui a été massacré par quelqu'un qui prétendait s'y connaître. J'ai cru qu'il était mort et ça fait 5 semaines que maintenant ça repousse de tout petits bourgeons, des toutes petites pointes. Il est rouge, rouge-rose, en fait rouge-grenat. Il y en a tout plein. C'est magique parce que je le croyais vraiment mort, quoi. L'écorce était devenue une vraie peau de crocodile. Je pensais qu'il n'y avait plus rien à faire. Et c'est reparti. La nature est magique.
Ah, la nature est magique.
Absolument. Nous sommes d'accord.
Bonne journée à Plouvorne, Marie. Merci pour cette petite note poétique. C'est toujours ça aussi, un petit peu le jardin. Anne est à Plabennec. Ah bah tiens, les pivoines encore. Les revoilà. Bonjour Anne.
Oui, bonjour. J'ai un plant de pivoine qui date de plusieurs années et il ne me fait pas beaucoup de fleurs. L'année dernière, j'en ai eu. C'est une herbacée. L'année dernière, j'avais 4 fleurs. Cette année, je ne vois qu'il n'y en a que 2. Alors, je voudrais comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait davantage de fleurs.
Alors, déjà, il y a ce que j'expliquais tout à l'heure, mais en général, quand la pivoine est trop enfoncée, elle ne fleurit pas du tout. Ce n'est pas une fleur de temps en temps, ce n'est pas du tout. Si elle est installée depuis plusieurs années, ça peut valoir le coup. Il faut inviter 2-3 copains à manger, avec chacun sa fourche à bêcher. Ça peut valoir le coup de. On se met tout autour du pied de pivoine, chacun avec la fourche à bêcher. On la plante bien verticalement dans le sol et on fait l'effet de levier délicatement, juste pour soulever très légèrement la motte de la pivoine. Et là, il y a une personne, ça peut être vous par exemple, qui prend un bon terreau ou une bonne terre de jardin. C'est pas la peine de mettre du compost ou des trucs, et qui va glisser ça en dessous, ce qui fait que quand on va relâcher le plant, eh bien, il va être forcément un peu plus haut que le niveau du sol, et ça va lui faire du bien. Et cette opération-là, ça se fait entre le 15 août et le 15 septembre.
Hein. D'accord.
Donc au moment où vraiment elle est en plein repos. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la pivoine, c'est pas une plante embêtante, mais il faut quand même lui donner un petit peu à manger. Hein. Donc faire un très bon apport de compost, soit en tout début de printemps, donc fin février, début mars, soit juste après la floraison, vous avez le choix. Certaines personnes en remettent une couche juste au redémarrage, c'est-à-dire fin septembre, mais à mon avis, c'est pas le meilleur moment. Hein. À mon avis, c'est moitié avant, donc en tout début de saison et moitié juste après la floraison pour que la plante ait le temps de faire des belles réserves et de bien préparer sa floraison pour l'année suivante, parce que la floraison, elle la prépare en juillet-août. Hein. Donc en juillet-août, la qualité de la fleur et le nombre de fleurs est déjà prévu. D'accord. Donc si vous leur donnez bien à manger, un bon compost, ça suffit, c'est pas à peine de mettre des engrais, des machins, des bidules. Hein. Un bon compost suffit largement pour une pivoine, mais il lui en faut quand même une bonne quantité. Et je vous dis, séparer en 2 fois comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux.
Il faut espacer les repas.
Voilà, exactement.
Bon, on va essayer. Est-ce que je peux poser une autre question ?
Allez-y alors.
Alors, j'ai fait les boutures de pommiers au mois d'août et je vois que ça a marché. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que je les laisse comme ça ou les repiquer ? Quand ? Comment ? Je ne sais pas.
Alors déjà, elles sont en pleine terre vos boutures ou elles sont en pot ?
Oui, en terre, oui.
Eh bien, en pleine terre, vous les laissez tranquilles et puis vous attendez tranquillement la Sainte-Catherine pour les mettre en place. Alors sachant que une bouture de rosier, de pommier, suivant la variété, elle va bien se développer et elle va fructifier correctement. Et d'autres variétés qui sont des variétés faibles vont peiner, vont vraiment souffrir. Par contre, l'avantage, c'est que ça vous permet d'avoir du greffon. Donc, vous pouvez très bien, après, trouver un porte-greffe à droite, à gauche. Il y a toujours quelqu'un qui a un porte-greffe à donner. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez prendre un greffon sur vos boutures et greffer celles. Mais regardez d'abord comment elles poussent. Hein. Celles qui sont vigoureuses, elles feront des jolis arbres et elles produiront correctement. Celles qui sont souffroteuses, elles vont continuer de végéter, mais elles ont du mal à démarrer parce qu'elles ont besoin d'un porte-greffe qui leur apporte de la vigueur pour pouvoir fructifier correctement.
Et donc ça, j'attendrai l'année prochaine si je veux utiliser les greffons. Quoi.
Tout à fait.
Voilà Anne. Bonne journée à Plabennec.
Et enfin.
Allez, dans un petit instant, on va parler pommes de terre.
France Bleu.
Du 5 au 13 mai, à terre comme en mer, vivez le Grand Frisson avec le Grand Prix Guyader. Mêlant sport et spectacle, le Grand Prix Guyader est le seul événement à rassembler autant de marins pour un grand nombre de disciplines. Du 5 au 13 mai, le Grand Prix Guyader. Les plus beaux bateaux de la course au large côtoieront les mythiques dragons sur le site prestigieux de la baie de Douarnenez. Le Grand Prix Guyader,
du 5 au 13 mai,
un rendez-vous exceptionnel à vivre avec France Bleu Brésil.
Stade Bleu Brésil, Thomas Lavaux.
Souvenez-vous, comme Bercy avait vibré au son des chants d'un millier de Brestois.
Ah, ils ont pris Bercy et puis ils crient plus fort que tout le monde. Enfin, c'est la ferveur qu'il y a dans ce club. Franchement, c'est un truc de fou qui vient de se passer là.
Ça vous avait manqué. Ce samedi, on remet ça. Le Brest-Bretagne Handball monte à Paris pour la finale de la Coupe de France féminine face à Toulon, exactement comme il y a 2 ans.
On va y aller pour gagner un titre parce qu'une finale, ça se joue pour faire gagner. J'ose dire que là, ça va être plus dur qu'à 2 ans.
Et cette finale, elle se vit sur France Bleu Brésil, sur FranceBleu.fr et grâce à l'application mobile France Bleu ce samedi dès 18h.
Une question jardin, notre expert y répond tout de suite.
Allez, c'est la dernière ligne droite dans ce jardin bleu de ce samedi. On part à Lannion. Bonjour Henri.
Oui, bonjour, bonjour beaucoup. Bien, grand merci parce que c'est très efficace tous ces conseils. C'est fabuleux. Il faut remercier Philippe infiniment. Voilà, deux questions en une. La plus rapide, si c'est possible, c'est la plus rapide d'abord. Deux questions qui n'ont rien à voir ensemble. C'est quel conseil donner pour mettre une fleur qui puisse durer à l'entrée de sa propriété, de son jardin, et qui dure laurier rose ou quelque chose comme ça? Qui soit chouette, quoi. Qu'est-ce qui serait idoine et qui puisse donc être mis actuellement, ou est-ce qu'il faut le mettre en pot d'abord avant de le mettre définitivement? Puis je arriverai ensuite à la deuxième question.
Alors, la première, je vais vous décevoir, tant pis. En fait, il n'y a pas de solution magique. Tout dépend d'une part de vos goûts, tout dépend de l'environnement dans lequel vous voulez la placer, tout dépend de l'orientation, tout dépend des vents coulis qu'il pourrait y avoir, etc. Donc en fait, il faut vraiment, il n'y a pas de plante magique. Il y a une plante qui est magique si on la choisit bien, c'est-à-dire qu'on met la bonne plante au bon endroit. Celle qui supporte le soleil, on la met plein soleil. Celle qui a besoin d'ombre, on la met à l'ombre. Voilà. Donc j'ai pas de, et puis si vous aimez le jaune et que voilà,
qu'est-ce qui est résistant?
Ah mais après tout dépend, oui, en plus après tout dépend de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez une plante parce que vous parlez de planter maintenant, parce que ce qu'on plante maintenant théoriquement c'est des plantes annuelles, hein, c'est pas des plantes de vivaces, hein, ou c'est pas des arbustes. Donc qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez plutôt un arbuste, plutôt une plante vivace,
et surgay, quoi, qui tient bien.
Mais il y a plein de choses de bien. Tout dépend de l'environnement, tout dépend de votre goût, tout dépend de comment est fait l'entrée de votre jardin, tout dépend de la couleur de la pierre, du muret ou de l'enduit de la maison, etc.
Ah, c'est du paysagisme.
Mais oui, on est vraiment.
Rose, par exemple,
le laurier rose, c'est pas du tout une plante pour la Bretagne. Hein. On va être pour la Bretagne nord. Donc le laurier rose, c'est une plante méditerranéenne. C'est une plante qui est originaire de mémoire, c'est vers la Turquie dans ces coins-là. Donc c'est vraiment une plante qui a besoin de chaleur, de beaucoup de chaleur, de beaucoup de soleil, de beaucoup de lumière. Donc, des fois en Bretagne ça marche, et puis des fois en Bretagne ça marche pas. Donc, c'est vraiment pas une plante bretonne. Hein.
Qui marche bien par exemple?
Il y a des milliers de plantes qui marchent bien. Il y a des milliers d'arbustes qui marchent bien. Parce que le laurier rose, c'est un arbuste, hein, faut pas oublier. Donc, voilà. Ce qui marche très très bien, si on est en bord de côte, ça va être des plantes plutôt d'origine néo-zélandaise, mais il y a aussi plein de plantes méditerranéennes qui marchent quand même. Ça dépend vraiment si vous êtes à Lannion, mais sur Bré-les-Venez, vous n'avez pas la même plante que si vous êtes au Moulin du Duc, hein, donc
oui,
parce que c'est pas les mêmes conditions. Et voilà, exactement. Donc je peux pas vous répondre.
Un hortensia, ça passe partout, non?
Non, même pas. Si on veut qu'il soit beau, il faut faire attention à le mettre bien.
Qui tienne bien contre le vent, oui.
Ben écoutez, on n'a pas le temps, mais il y a plein de sites internet qui vous répondent à ça.
Oh oui, c'est du paysagisme, c'est un petit peu plus difficile.
La deuxième question, si je peux me permettre.
Alors allez-y. Ouais.
Voilà, c'est très important parce que c'est une grosse déception. D'habitude, je mettais toujours du carton pour préparer mes plantations, hein, au mois de novembre, décembre. Mm-hmm. Et puis cette année, j'ai peut-être été un peu tardif, mais j'ai voulu planter mes patates. Et puis c'était foisonnant en herbe et du chien-dent. Et que faire? Alors mettre par-dessus, il n'y a plus de traces de carton, bien sûr, tout est parti, hein, plus rien du tout. Pour faciliter la plantation, la mise en place des plants de patates, par exemple, est-ce que je prends du compost et par-dessus les herbes, parce que à ressortir tout ça, c'est pas possible, sortir toute l'herbe qui a poussé. Donc c'est une grande déception, et quelle est la solution? C'est absurde, mais c'est comme ça.
Mais je pense qu'il y a eu un loupé de fabrication, parce que normalement, si vous avez mis carton plus feuilles mortes en quantité correcte et suffisante au mois de novembre, normalement, ça doit être encore couvert et ça doit être encore. Il ne devrait pas y avoir. Et il y a aussi une chose, petit loupé de fabrication, c'est le manque d'arrosage à la mise en œuvre. Quand on met en œuvre du carton sur du sol, il faut absolument arroser abondamment, de façon à ce que le carton s'imbibe immédiatement d'eau. Parce que si par hasard il reste sec et que quand on le met sur le sol, il va rester sec tout l'hiver, il va jamais remouiller. Et dans ce cas-là, ça va favoriser les liserons, le chien dent, ce qui vous arrive, et les mulots. Donc effectivement, dans ce cas-là, c'est pas bon. Par contre, lorsque on l'imbibe d'eau complètement, il épouse le sol et là, à l'inverse, il va étouffer les liserons, les bestioles, etc. Donc, il faut vraiment... Moi, je le dis régulièrement et je le répète pour aujourd'hui. Quand on met carton feuille morte sur son potager, il faut le faire un jour de pluie. Et ça tombe bien, au mois de novembre, il pleut de temps en temps. Donc, voilà. Donc, on le fait sous la pluie, c'est pas grave. Le jardinier, ni en sucre, ni en sel, il va pas fondre. On met un bon ciré des bottes. Et là, on étale les cartons. C'est tout de suite mouillé. Et dès que c'est bien mouillé, on met les feuilles mortes, elles aussi bien mouillées. On les piétine de manière à ce qu'elles se collent les unes aux autres et tout ça, ça ne va pas bouger pendant minimum, on va dire 4 mois, hein, novembre, décembre, janvier, février, mars, voilà 5 mois, ça ne bouge pas et ça commence à se dégrader un petit peu, on voit arriver les premières petites plantes tout nettes fin février, début mars et dans ces cas-là, pour éviter d'être embêté, eh ben, dessus on met par exemple un plastique noir pour attendre la plantation des patates, surtout cette année où on est carrément en retard, mais voilà, il ne faut pas les laisser la possibilité à la plante de se développer. Donc, voilà. Il faut mettre en œuvre correctement.
Alors, on est en retard, effectivement, vous venez de le dire. On va essayer de prendre quand même les deux personnes encore qui attendent au standard. Merci pour votre question, Henri à Lannion. Partons à Plonévé-du-Fou. Bonjour, Annick.
Oui, bonjour, Morgan. Je crois que c'est bien Morgan.
Ouais, c'est Morgan, il se repose, là. C'est Gaël qui le remplace. Mais,
je me trompe à chaque fois. L'autre fois, j'avais dit Jérôme. Bon,
c'est pas grave.
Excusez, alors.
Ça change tous les samedis, vous inquiétez pas.
Aussi, alors.
L'essentiel, c'est Philippe qui est toujours là.
Oui. Bon, alors, voilà, ma question, c'est au sujet d'un rhododendron.
Oui.
C'est pas un dindon, hein. Oui, que j'ai planté il y a 2 ans. Je l'avais acheté sur un marché et en conteneur. Bon, la première année, même, il a fleuri. L'année dernière aussi, un peu. Et là, maintenant, depuis que la fin de l'hiver, je remarque que ses feuilles sont un peu pâles et il y a certaines qui ont des taches rousses au centre de la feuille. Et il y a juste 3 boutons floraux cette année.
Alors effectivement, votre arbuste là, il souffre terriblement, donc peut-être qu'il n'a pas été placé au bon endroit. Alors je rappelle que les rhododendrons, faire attention, c'est des plantes suivant leur origine qui peuvent nécessiter beaucoup d'ombre, voire une ombre diffuse. Donc il y a les hybrides japonaises à partir de rhododendrons de l'Himalaya qui poussent dans des vallées où il y a rarement une heure de soleil maximum dans l'année, donc une heure par jour, hein. Voilà, donc qui ont besoin de beaucoup d'ombre et ceux-là ils doivent être forcément mis à l'ombre, on ne peut pas les mettre au milieu de la pelouse. Et puis il y a une autre deuxième gamme d'hybrides qui sont plus des hybrides de chez nous, donc des... à partir d'un rhododendron européen, oui. Et qui eux peuvent supporter le soleil. C'est pas leur préférence, ils préfèrent toujours quand même la mi-ombre, une ombre diffuse, mais ils peuvent supporter le soleil. Si vous avez mis un rhododendron qui a besoin d'ombre en plein soleil, et ben il souffre horriblement et il vous le fait savoir en étant de plus en plus moche d'année en année. Donc dans ce cas-là, il faut le déplanter, il faut aller le mettre dans un coin où il aura surtout pas le soleil le plus chaud, hein, et puis lui mettre beaucoup de très bon terreau de forestier, parce que c'est ça qui leur plaît, hein, éventuellement mélanger avec la terre de bruyère, et dans ces cas-là, il va repartir et bien arroser, évidemment, et dans ces cas-là, il va bien redémarrer.
Je remarque qu'il consomme beaucoup, qu'il demande beaucoup d'eau, oui, finalement. Ah bah, il est entouré aussi, peut-être. Et je ne sais pas qu'il est, il est là, en façade sud, mais il y a une grande haie de laurier à peut-être distance de une dizaine de mètres du plan. Et mais autre, parce que c'était l'ancien potager où je l'ai planté. Et il y a des plants de framboisier, de cassis, et ça, tout autour. Et puis des fleurs, autrement, peut-être qu'il y a trop...
S'il y a trop de concurrence, forcément, ça ne va pas lui plaire. Hein, donc,
non, sans doute. Hein.
Donc, Donc ouais. Effectivement, dans ces cas-là, il faut quand même faire très très attention. Hein. Faut pas qu'il y ait de la concurrence vraiment, que les racines se mélangent. En tout cas, les deux premières années. Après, c'est bon, une fois que tout le monde est installé, chacun vit avec l'autre, les plantes font ça beaucoup mieux que les hommes. Mais par contre, c'est vrai que les premières années, il faut absolument qu'ils prennent ses marques et qu'ils s'installent correctement. Donc vérifiez bien cette notion de plantation. Et si c'est dans le potager, à mon avis, il a trop de lumière, votre rhodo. Et ça lui va pas du tout.
Allez, voilà, nous sommes un petit peu en retard, Annick. Bonne journée à Plonévé-du-Fou. Alors, Patricia de Plonéour, je sais que vous avez attendu. Alors, oui. Je vais poser la question pour vous. Vous pourrez écouter la réponse, Patricia. Alors, Philippe, est-ce que les clérodendrons se taillent?
Alors ça dépend lequel. Il y a deux clérodendrons qui poussent bien en Bretagne, en France d'une manière générale. Il y a celui qu'on appelle le bonnet d'évêque, hein, le trichotonome, qui peut devenir une plante assez haute et qui se taille légèrement, c'est-à-dire qu'on l'empêche d'être fouillis. Et puis il y en a un autre qui s'appelle clérodendron bungayi, qui est une plante qui en fait est un petit peu baladeuse. Et elle, à chaque fois qu'une touffe s'est formée, on peut la rabattre au sol systématiquement tous les printemps. Hein. Donc voilà, il y en a un qu'il faut rabattre au sol et l'autre qu'il faut laisser se développer avec une petite taille de nettoyage simplement.
Merci Philippe. Vous voulez nous donner un petit rendez-vous rapidement?
Alors, deux petits rendez-vous rapidement. Vers le Jardin 22 organise un vide-jardin demain dimanche à Robien, donc avec le comité de quartier de Robien, donc c'est à Saint-Brieuc. Hein, alors il y aura plein de trucs, évidemment, vide-jardin classique. Et puis, voilà. Et puis le deuxième, c'est la journée des rhododendrons. Tiens, justement, on en parle, c'est au Jardin des Wennes, c'est à Remingol, j'en parle régulièrement. Alors je rappelle le Jardin des Wennes, c'est une association et qu'ils ont eu des petits problèmes cet hiver, donc si vous voulez aller les aider pour qu'ils se requinquent parce qu'ils ont vraiment une collection botanique extraordinaire, bah allez là-bas, ça coûte pas très cher d'y aller, hein, c'est 5€ l'entrée pour vraiment une belle immersion parmi des plantes assez exceptionnelles, et puis ça aidera l'association et c'est toujours bien d'aider les gens.
Et merci beaucoup Philippe, je souhaite un très bon week-end et à
Je rattaque lundi avec Catherine à 9h30 par exemple.
Exactement, profitez bien du soleil aussi. Allez, Canavo.
France Bleu Brésil. France Bleu.